Le rendez-vous.
Et oui, Bernard-Henri Lévy, l'invité du rendez-vous pour Ennemi public, livre de correspondance. Il était annoncé depuis quelques temps comme un livre événement. Les auteurs avaient été gardés secrets. Bref, toute une technique de communication qui s'est installée depuis quelques temps dans l'édition. Et au fond, pourquoi pas si elle s'efface ensuite à la lecture des ouvrages qui sont ainsi exposés. Et c'est le cas d'Ennemi public, donc coédition Flammarion-Grasset. Vous et Michel Houellebecq, je voulais savoir d'abord la première chose, est-ce que c'est à vous que revient véritablement l'initiative d'un tel ouvrage, d'une telle rencontre? C'est vous qui avez voulu rencontrer Houellebecq?
Écoutez, ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que c'est aux auteurs que revient l'initiative. Voilà, c'est à Houellebecq et moi, dans le sens que vous voudrez. L'initiative est là, elle a longtemps été secrète. Nous avons correspondu entre nous, comme les gens qui s'écrivent des lettres. Et nous sommes allés trouver nos éditeurs respectifs beaucoup plus tard.
Alors, qui est à l'initiative? Ce n'est pas simplement l'histoire d'éditeur-auteur, mais c'est vous qui avez rencontré d'abord Houellebecq, d'un point de vue chronologique. Mais
par définition, on s'est rencontrés ensemble.
Oui, bien sûr. Alors, disons que l'invitation partait de qui?
L'invitation à débattre partait de Michel, qui a proposé un débat. Et c'est moi qui lui ai dit que plutôt qu'un débat, une correspondance me semblerait mieux venue. Parce que plus propre à permettre le retrait, la réflexion, l'approfondissement, le temps. C'est une correspondance qui a pris du temps. Réfléchir à deux en prenant son temps, ça m'a semblé mieux qu'un échange de paroles qui est toujours dans la légèreté et la précipitation.
Est-ce que vous aviez déjà des modèles, justement, d'échanges épistolaires de cet ordre-là?
Il n'y en a pas tellement. Il n'y en a pas tellement. Il y a des tas d'écrivains qui se sont écrits, bien sûr, dans l'histoire de la littérature. Mais des écrivains qui s'écrivent en se disant qu'il y aurait peut-être publication, et je dis peut-être parce que nous n'en étions sûrs ni l'un ni l'autre. On s'est écrit les choses comme elles venaient, dans un esprit de liberté absolue, en se disant l'un à l'autre des choses que nous n'avions dit à aucun autre, et parfois pas même à soi-même. Et des exemples de ce genre, on n'en avait pas de modèle. Moi, j'en avais un, personnellement. Il y a une quinzaine d'années, j'ai entrepris cela avec un autre écrivain. Et ça a tourné court. C'est pour ça que j'ai été d'ailleurs très prudent. Et c'est une des raisons qui fait que ce projet est longtemps resté secret. Cet autre écrivain, je peux vous le dire.
J'allais vous poser la question.
Je sens que la question vous brûle les lèvres, je vais vite vous affranchir de votre impatience. Cet autre écrivain, c'était Régis Debray. On a correspondu pendant des mois. Et puis au bout de quelques mois, au bout de quelques lettres, on a décidé d'un commun accord qu'il ne fallait pas les publier. Donc voilà, c'est... Il n'y a pas trop de précédents et on n'est jamais très sûr. Ces livres-là ne sont pas des livres concertés, c'est des livres aléatoires.
Alors ce qui est intéressant, c'est ce que vous venez de dire, justement, le fait que vous livrez l'un à l'autre des choses que vous n'aviez dites jamais, à personne auparavant. Et il me semble bien que c'est justement cette forme épistolaire qui permet cela, puisqu'elle elle vous a aussi permis, par exemple, d'entrer dans ce que vous refusiez au départ, qui est... plus théorisé un petit peu par Michel Houellebecq, la littérature de l'aveu. Et vous dites vous-même que Schopenhauer note avec surprise qu'il est très difficile de mentir par lettre. L'aveu, vous dites, c'est un mot qui vous tétanisait.
Oui, enfin, c'est Michel Houellebecq qui cite Schopenhauer, et c'est moi, en effet, qui lui réponds que l'aveu est... Oui, moi, d'abord, je suis d'un tempérament pudique. Ensuite, j'ai une conception de la littérature.
Vous opposez justement à ce moment-là...
La littérature froide. Oui, la tendance... Il y a des pages dans L'idiot de la famille, des pages de Sartre, où il oppose la littérature froide, flaubertienne, à la littérature plus libre et plus insouciante et plus lâchée de Stendhal.
Antilittéraire pour vous, de Stendhal.
Et moi, j'étais plutôt du côté de Flaubert, oui. J'ai une écriture très, très... Une conception de la littérature... construite, froide, qui en dit le moins possible, qui se masque le plus possible. Et la bizarrerie de ce livre, son miracle, d'un côté comme de l'autre, d'ailleurs, c'est que ça a libéré des choses. Exemple, en pleine correspondance, arrive l'événement du livre de la mère de Houellebecq.
J'allais vous en parler parce que c'est le point central, c'est même au milieu exactement, de l'ouvrage.
Et voilà. Alors, voilà un exemple très précis. Comme ça ne vous a pas échappé, Michel n'a pas répondu à sa mère dans la presse. L'ensemble de la presse a multiplié les articles sur cet événement inédit dans l'histoire de la littérature. Là, pour le coup, je crois qu'il y ait une mère qui, sur la place publique, vient dire à ton fils, si je te vois, je te casse les dents avec ma canne.
D'ailleurs, vous Michel... qualifiez cela de meurtre oedipien.
Oui, c'est un meurtre oedipien à l'envers, absolument. Ouais. Je, À partir de là, nous passons en revue, en effet, la question de la maternité dans l'histoire de la littérature. Il y a d'autres mères célèbres, hein, la mère de Rimbaud, la mère de Baudelaire, la mère d'Hervé Bazin, Vipère au Point, etc. Bref, mais surtout, ce n'est pas tellement ça, c'est pas tellement. Il y a une réflexion sur le matzeus, sur ce que j'appelle ou ce que nous appelons le matérialisme. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que Michel ne répond pas dans les journaux. Il n'a répondu, je crois, à aucun des journalistes qui l'ont interrogé là-dessus, et il répond en effet dans ce livre. Et il y a une lettre, moi, qui me met les larmes aux yeux quand je la relis, une lettre de Michel Houellebecq, de réponse à l'événement inouï qu'est la violence de sa mère jetée sur la place publique, où il dit cette chose terrible. Il dit pas seulement qu'il est triste, il dit pas seulement que ça lui fait mal, il dit que cette lettre lui fait honte. Et il parle de cette honte qu'un homme et qu'un écrivain ressent à la lecture d'un livre comme celui-là. Donc voilà un exemple où vous voyez comment, en effet, cette bizarrerie, cette relation épistolaire étrange, imprévisible, on est à l'opposé l'un de l'autre, nos visions du monde diffèrent autant qu'il est possible de différer, comment elle produit des événements de discours de ce genre, Michel, en effet, répondant donc à l'événement du livre de sa mère.
Alors, il y a quelque chose quand même qui vous rapproche, c'est le titre, donc « Ennemi public ». Et vous en donnez en fait une définition, et même vous apportez un nom, c'est la page 280, et j'aimerais que vous lisiez ce passage.
Oui, vous me l'avez là,
Bernard-Henri Lévy.
Vous me l'avez ouvert là sous les yeux, mais volontiers. Alors c'est dans une lettre où je raconte une conversation très ancienne avec Aragon. Donc je parle d'Aragon, le vieil Aragon, que je rencontre rue des Saints-Pères, et nous sommes dans un bar dont les plus anciens de vos auditeurs se souviennent peut-être, qui était un bar littéraire des années 70 qui s'appelle le Twickenham. Donc, c'est Aragon qui est là et je dis « Nous parlâmes stratégie littéraire, brouiller les pistes, se déguiser, mentir comme on respire, réécrire comme on joue à la roulette, aux échecs, au poker, cacher son jeu ou le montrer, le dessous des cartes ou leur dessus, l'art du masque et du mensonge, la mauvaise foi comme esthétique et volonté, la loi des faussaires, inventer le monde plutôt que le parodier, de la haine aussi et des moyens d'y résister, de la guerre de longue durée où il s'était engagé depuis que, comme Breton, mais avec quel talent, il s'était déclaré défaitiste de l'Europe, adversaire sans merci d'une société de chiens, de porcs et de succubes, oui, sans merci, oui, haïsseur d'un monde dont il n'aura cessé de scruter, en même temps qu'il en jouissait, les signes avant-coureurs de l'agonie. En voilà un, mon cher Michel, qui aura été sa vie durant cet ennemi public dont nous parlons. » Je parle là de Louis Aragon, auquel nous rendons l'un comme l'autre hommage dans ce livre.
Dans ce livre, exactement. Il y a d'autres personnes comme ça qui reviennent, d'autres personnages, même des personnages littéraires. Il y a Solal qui revient de Belle du Seigneur assez régulièrement sous votre plume. Ça, c'est un ennemi public, Aragon. Vous, quel type d'ennemi public êtes-vous et quel type Michel Houellebecq est-il ?
C'est pas tellement nous le problème, parce qu'en effet, vous venez de le dire, ce livre, c'est aussi et c'est peut-être d'abord un exercice d'admiration. C'est-à-dire qu'on paye nos dettes. Michel Houellebecq, comme moi, ça nous expliquons pourquoi, nous n'écrirons probablement pas nos mémoires, pour des raisons de tempérament et peut-être de choix littéraires. Donc ce livre, il en tient un peu lieu. Et ce qu'on fait de mieux dans ses mémoires, quand on écrit ses mémoires, c'est de payer ses dettes à ceux qui vous ont fait celui que vous êtes. Donc dans ce livre, Michel paye sa dette à Pascal ou à Schopenhauer. Je paye ma dette à Romain Gary ou à Pessoa. Ou ici à Louis Aragon. J'explique pourquoi Malaparte me semble l'un des écrivains les plus sous-évalués du XXe siècle. Nous débattons du rapport, et ce n'est pas un rapport scolaire, Rimbaud-Baudelaire, le rapport entre celui qui dit, après une expérience poétique incroyable, que la vraie vie est ailleurs, et qui part au harare et qui se coupe littéralement le souffle, et celui qui, au contraire, jusqu'à la fin, jusqu'au crénom des derniers jours, ne cesse jamais ce travail et cette douleur et cette souffrance du verbe. Qu'est-ce que ça veut dire être Rimbaud ? Qu'est-ce que ça veut dire être Baudelaire ? La poésie. Il y a dans ce livre, et ça je sais que pour Michel, il n'est pas là malheureusement aujourd'hui, je crois que son film sort en Russie, mais pour lui c'est très important, il y a une réflexion sur la poésie.
Exactement.
Sur pourquoi on n'en publie plus, sur pourquoi les éditeurs ne publient plus que des vieux poètes en fin peut-être d'œuvre, et ainsi de suite. Donc ce livre, c'est d'abord un exercice d'admiration, c'est d'abord des dettes honorées.
Alors, vous citez Baudelaire, on sait l'attachement, hein, puisque vous lui avez consacré un ouvrage, vous citez aussi Rimbaud, et il y a la lettre du 3 juin 2008 de Michel Houellebecq, où il maintient absolument que le roman, et il cite même Dostoïevski, même Balzac, même Proust, reste pour lui définitivement, par rapport à la poésie, un genre mineur. Et notamment, il met cette supériorité de la poésie en rapport avec la notion de style qu'il refuserait même au roman. Est-ce que vous, vous partagez cette opinion ?
Non, je ne la partage pas.
Et parce que justement, tout à l'heure, vous étiez Aragon, c'est par Aragon que vous allez répondre à cette,
absolument.
À cette invitation.
Absolument. Moi, je ne partage pas cette analyse. Je pencherai plutôt d'ailleurs pour le roman genre majeur. Et surtout, je lui réponds que pour un artiste, il n'y a pas vraiment de genre majeur. Que ce qui est majeur, c'est le style, c'est-à-dire cette espèce de musique dont Proust parle en la comparant à la petite musique de Vinteuil et qui s'empare au fond, qui traverse tous les genres qu'un artiste ou qu'un écrivain traverse ou emprunte comme on emprunte un moyen de locomotion. Je cite à Michel un vieux texte de Michel Foucault et Gilles Deleuze que je cite et que je commente, où Deleuze et Foucault, il y a très longtemps, dans un texte publié par une revue qui s'appelait L'Arc, bien oublié aujourd'hui, disait au fond, le journalisme, la philosophie, la littérature, le théâtre, c'est comme des taxis ou comme des relais de poste, comme des chevaux qu'on prend et qui, lorsqu'ils sont fourbus, sont abandonnés au relais de poste et on en prend un nouveau. Donc ce qui est majeur, ce n'est pas le genre. Ce qui est majeur, c'est l'itinéraire. Sur Michel, cela dit, j'ajoute quand même que dans le passage auquel vous faites allusion, il dit ça. Mais il dit autre chose qui est très beau, je trouve, et qui donne tout son prix à la lettre en question. Il explique en même temps ce qui fait qu'un personnage de roman vit. Ce qui fait qu'un personnage de roman a parfois une existence, existence de papier, existence de fiction, plus réelle que les personnages réels. Quel est ce miracle qui donne la vie, comme dans la vieille légende du golem, parce qu'on parle aussi de ça, on parle de la tradition juive, on parle des grands penseurs du judaïsme, etc. Comme un personnage du golem, qu'est-ce qui insuffle une telle quantité de vie, un tel souffle d'existence à des personnages de papier ? Et là-dessus, Michel a des hypothèses qui me semble en effet mériter d'être retenu, même quand on croit que la poésie est supérieure au roman, comme c'est son cas.
Par exemple, quelle est pour vous la raison qui serait véritablement valable par rapport à cette construction de personnages, celle que vous retiendrez, Bernard-Henri Lévy ?
Il y a mille raisons, mais je crois que la principale raison, c'est que, et là-dessus nous nous accordons l'un et l'autre aussi, c'est qu'au fond, la vraie matière du monde, la vraie matière des humains, leur vrai ADN. Hein, il y a des gens, autrefois, François Jacob et Monod avaient eu le prix Nobel avec la découverte de l'ADN. La théorie sur laquelle nous nous accordons, Michel et moi, c'est que le vrai ADN des humains, c'est les mots. C'est les mots qui font votre matière, la mienne et celle de ceux qui nous occupent. De quoi on est fait ? On n'est pas fait de tissu, on n'est pas fait de cellules. Je me souviens les vieilles leçons de mon maître Canguilhem expliquant comment on était passé de la théorie tissulaire à la théorie cellulaire. Eh bien, nous, notre thèse dans ce livre, c'est que c'est ni tissu ni cellule, c'est les mots, c'est le verbe. Alors, quand un personnage n'est fait explicitement que de mots, quand il est vraiment tramé dans cette intrigue-là, qu'est l'intrigue des mots, alors il a une existence du troisième genre, du suprême genre. Et alors il est plus réel que les personnages réels que nous sommes autour de cette table.
Alors tout à l'heure, vous citiez le livre donc, de la mère de Michel Houellebecq, qui vous arrête hein, d'ailleurs dans votre démonstration philosophique, vous d'abord, ensuite Michel Houellebecq. Ça vous entraîne aussi tous les deux sur le chapitre des bios non autorisés que vous fustigez, la violence qui est faite aux gens dont on parle comme ça, sans autorisation. Et à ce sujet, nous recevions hier Philippe Cohen, qui est directeur du Nouvel Hebdomadaire Vendredi. C'était la raison pour laquelle on le recevait. Je crois qu'il a signé une bio de vous-même. Et il a cette question pour vous.
Alors la question que j'aurais lui posée, c'est quand même, quand est-ce qu'il va se décider à essayer d'être ce qu'il devrait être, c'est-à-dire un écrivain, ce qu'il n'est pas jusqu'à présent ?
Ce que vous devriez être.
Mais il serait temps, surtout que j'avance en âge. Mais c'est tellement gentil de se soucier de mon sort, de mon destin et de mon avenir. Je fais comme je peux, voilà, je fais comme je peux. Et notamment dans ce livre, vous avez là deux pauvres écrivains, bien misérables, qui peinent à essayer de se demander, de se poser cette question-là, précisément.
Mais c'est bizarre parce que cette question, on peut aussi répondre. Vous y répondez d'une façon même très frontale dans le livre. Vous dites que vous avez passé votre vie à c'est la question de l'intellectuel engagé. Vous avez dit que vous avez passé votre vie donc à voyager, à aller tout autour du monde, au lieu d'écrire mes romans et de vrais traités de philosophie. J'ai sillonné le vaste monde à la recherche des torts à redresser et des causes à défendre. Oui. C'est peut-être là aussi qu'est la réponse à la question.
J'explique. Alors, c'est, en effet, c'est une des choses que j'explique dans ce livre, et c'est bien triste, mais c'est ainsi. Le temps que la politique fait perdre aux écrivains, le temps que le souci du monde et le souci de l'autre fait perdre aux philosophes. C'est vrai qu'il y a là un jeu dont je ne sais quelle est la somme, mais qui est peut-être, en effet, qui se joue peut-être au détriment de la littérature. Mais je ne suis pas le premier. On parle d'Aragon, en effet. On parle de Malraux aussi dans ce livre. Houellebecq me demande, avec un peu plus quand même d'éloquence que ce que nous venons d'entendre, Houellebecq m'exhorte à me libérer de ce qu'il appelle le modèle Malraux. Parce qu'il pense, en effet, que pour la littérature et pour la philosophie, c'est un modèle, c'est comme une hémorragie. Et c'est probablement vrai. C'est probablement vrai. Mais que faire ? Est-ce qu'il faut choisir entre ce que l'on a le sentiment de devoir au monde et ce que l'on a le sentiment, mais peut-être avec trop d'immodestie, de devoir à la littérature ?
Le rendez-vous, la chronique.
On vous garde encore quelques instants, Bernard-Henri Lévy. D'abord, la chronique de Thomas Claire aujourd'hui sur rapport entre prix Nobel et littérature. Et
les prix Nobel sont-ils ou font-ils de bons écrivains ? Ben, on peut se poser la question en consultant le palmarès des écrivains, des 105 écrivains récompensés par le prix Nobel de littérature, qui donne une vision très curieuse, pour ne pas dire plus, de la littérature du XXe siècle. On n'est pas loin d'une cartographie de l'absurde dans cette liste qui est piégée d'au moins six façons. Alors premièrement, il y a une forte proportion de parfaits inconnus, au moins 25% des lauréats. Et il serait de mauvaise foi prétendre que von Heidenstam, Bjørnstjerne Bjørnson, von Heise ou Spittler sont des gens fondamentaux pour la littérature. Deuxième point, le gros bataillon, c'est le bataillon scandinave, une sorte de trust, 14 écrivains scandinaves dans cette liste, et notamment par exemple en 1974, Johnson et Martinson, qui furent également membres du jury, ont été préférés à Vladimir Nabokov. C'est tout à fait étonnant, mais c'est comme ça. Troisième point, également une sous-représentation de ce qu'on peut appeler les minorités, des femmes. Il n'y a que 9% de femmes, et ce n'est ni Simone Veil avec un W, ni Virginia Woolf avec un W également, qui ont été préférées, mais Grazia Deledda ou Sigrid Undset. C'est un petit peu inquiétant. Minoration également des pays non occidentaux, cela est bien connu, c'est le Japon qui arrive pour la première fois en 12e position comme nation donc non occidentale, avec deux nominés seulement, 4 seulement pour le continent africain, aucun pour la Chine. Et 11 pays occidentaux dans les premiers, avec la France, les États-Unis et l'Angleterre.
Démonstration statisticienne.
Oui, absolument, très statistique. Une autre statistique aussi, mais dieu littéraire, eh bien, aucun d'entre eux ne figure dans la liste de ces oubliés, ni Kafka, ni Pasolini, ni Brecht, ni Proust, ni Gombrowicz, ni Céline. Bon, pour des raisons évidemment formalistes ou oppositionnelles, le prix Nobel, d'une certaine manière, fait un peu l'impasse. Ce n'était quand même pas une raison, peut-être, pour décerner notamment la palme, si on peut dire, à ce qu'on pourrait appeler des tocards objectifs. Alors je n'aurais pas trop polémiqué, mais enfin, si on prend justement la France, pourquoi avoir, disons, honoré Anatole France, un cadavre, comme disait André Breton, ou bien le très démodé Roger Martin Dugard ou l'académique Saint-John Perse? C'est un petit peu quand même assez problématique. Et puis il y a aussi enfin les critères extra-littéraires. En 1953, c'est Churchill qui avait été honoré. En 1965, les staliniens ont réclamé la tête de Cholokov. Bref, si ce palmarès parle de lui-même, je ne voudrais pas jouer la carte trop facile de l'anti-institution, ça serait un petit peu démagogique. Je ne prétends évidemment pas que tous les prix Nobel sont de mauvais écrivains, ça serait absurde, puisqu'il y a de très grands noms comme Faulkner, Sartre ou Beckett. Mais il y a donc évidemment une certaine légitimité du prix Nobel, mais qui est quand même problématique dans la mesure où les desiderata du chimiste Alfred Nobel étaient qu'il fallait récompenser une œuvre qui a une impressionnante force d'idéal. Et on pourrait se demander si justement ce critère d'universalité, qui est largement violé dans les faits, ainsi que je l'ai montré, eh bien on peut se demander si ce critère est un bon critère pour déterminer la valeur littéraire. Et par exemple, Frédéric Yves Janet a récemment contesté dans une tribune du Monde l'attribution du prix Nobel à Le Clésio, au nom de la banalité de son œuvre. Il n'a pas forcément tort, mais je ne suis pas d'accord avec le critère qu'il choisit, qui serait l'universalité, qui me semble être un critère relativement douteux. Et je conclurai là-dessus en disant que finalement, le prix Nobel récompense un type d'écrivain. Et c'est justement ceux qui font preuve d'une universalité très explicite, très facilement lisible, qui me semble un peu insuffisamment complexe, un peu trop humaine. humaniste, et ce que Sartre, justement, avait dit de manière très humoristique en refusant le prix Nobel en 64. Donner le prix Nobel à un écrivain, dit-il, c'est le tuer. Et, d'ailleurs, tous les prix Nobel sont morts, et c'est pour ça que moi, je l'ai refusé, ça me maintient en vie.
Bernard-Henri Lévy, une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit ?
Absolument juste, exact, de bout en bout, avec une petite mention peut-être pour Milan Kundera. J'attire l'attention de vos auditeurs sur le fait que 3 semaines avant l'attribution du prix Nobel, comme par hasard, une revue tchèque qui s'appelle Par ironie, Respect publie un rapport de police des années 50 supposé le déconsidérer et qui a fait quand même quelques vagues les 3 semaines nécessaires. Donc le prix Nobel en plus, il se mêle peut-être à d'autres considérations. Et quant à Sartre, vous avez raison. Sartre savait que pour vivre, il fallait refuser les honneurs. Pour rester libre, il fallait refuser d'être académisé, emmagasiné, nobelisé.
D'ailleurs, il dit à Albert Camus, quand Albert Camus obtient le prix Nobel, il lui dit « c'est bien fait, en quelque sorte ».
Naturellement. Ah bah, il était ravi. Le plus beau jour. Sartre a même dit que c'était le plus beau jour de son année. Il a bu le champagne. Quand Camus a reçu le Nobel, il a dit « enfin débarrassé ».
Bernard Olivier, on va vous libérer, mais juste avant, un rituel dans l'émission, un invité de la veille pose une question à l'invité du lendemain. Entorse au rituel, cette fois-ci, c'est aux invités de mardi que sera posée la question. Nicole Garcia pour le film Les Bureaux de Dieu de Claire Simon ou Elisabeth Badinter pour Je meurs pour toi. À qui destinez-vous votre question, Bernard-Henri Lévy ?
Écoutez, plutôt à Elisabeth Badinter, puisqu'elle vient, je crois, parler elle aussi d'une correspondance.
Exactement.
Voilà. Et Michel Houellebecq, dans notre livre, dit à un moment donné que l'une des caractéristiques de notre époque, c'est que la question sexuelle y est mise sous le tapis. Est-ce qu'Elisabeth Badinter, ayant édité cette correspondance incroyable et incroyablement troublante et d'un érotisme insensé, un érotisme affiché et qui ne se sait pas, est-ce qu'elle conviendrait avec nous que la question sexuelle aujourd'hui est beaucoup plus mise sous le tapis qu'elle ne l'était au XVIIIe siècle.
Merci Bernard-Henri Lévy.